بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، donc on commence par le meilleur, la khutba de l'Hajja. Le prophète عليه الصلاة والسلام donc commencer par ça. Comme il ne parlait pas de lui-même, c'est une sunna de commencer par louer Allah subhanahu wa ta'ala, le premier et le dernier, celui qui n'a ni début ni fin, le puissant, le miséricordieux par essence et par excellence, celui qui est la source de tout bien, la source première, subhanahu wa ta'ala. Et donc nous le louons, nous revenons vers lui repentant et nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et contre les tendances de l'âme. Celui qui le guide, nul ne saurait l'égarer, et celui qui est privé de sa guidée dans sa justice, nul ne saurait le guider. Et j'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, de même que j'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager et son serviteur. Ensuite donc, qu'Allah bénisse vos pas et bénisse les sœurs en particulier, donc qui sont la cause seconde de notre réunion. Je rappelle simplement ceux qui sont là, même si en repartant, ils ne pensent pas avoir peut-être retenu beaucoup de choses, puisqu'ils connaissent ce qui va être dit, que celui qui vient dans l'intention d'apprendre une science ou de l'enseigner, il repart avec un pèlerinage agréé, comme l'a dit le professeur Hassan. Je ne parle pas de ceux qui ont fait le dohr avec nous également. Allah leur accorde également donc un pèlerinage, alhamdulillah, et ce n'est pas, c'est facile à Allah. Ensuite donc, les sœurs ont choisi plutôt ce sujet, l'obéissance à Allah et à son messager, alayhi salatu salam. C'est un sujet qui est important, comme vous le savez, puisque Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'imam, il disait que tout mal, et on le verra, inshallah, exactement ce qu'on lui fait dire, tout mal qui arrive individuellement ou collectivement, c'est dû à la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on entend ça, on se dit, non, mais tu exagères. En réalité, on va commencer par la fin. Vous vous rappelez certainement que Shaitan a fait oublier à certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il s'est installé à Uhud. Allah les a éprouvés. Et ce sont les meilleurs des hommes. Ils ont tout donné à Allah. Allah les a éprouvés. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parlait pas de lui-même, a dit aux compagnons qu'il a installé sur le mont à côté de Jabal Uhud, la montagne Uhud, ne bougez pas du mont, des archers qu'il a mis là, même si vous voyez des charognards sur nos dépouilles. On peut dire, oui, mais bon, c'est un conseil. Non, il a ordonné de ne pas bouger de là, même si vous voyez des charognards sur nos dépouilles. Donc, même si Allah avait décrété qu'on mourrait tous, ne bougez pas de là. Et voilà que dans un premier temps, Allah a donné la victoire aux croyants et que les associateurs ont reculé. Voyant ça, Shaitan a fait oublier au meilleur des hommes, en tout cas la meilleure génération de cette communauté, il leur a fait oublier l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est par oubli. Et ensuite, ils sont descendus pour ramasser le butin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme conséquence pour leur éducation et la nôtre, les a fait goûter ce qu'ils n'ont certainement pas, n'étaient pas prêts à oublier. Et une leçon pour nous. Ça, c'est la désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sur ces entrefaits, ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, en demandant au prophète sallallahu alayhi wa sallam pourquoi cela, Allah dit, dis-leur, ça vient de vous-même. Qu'est-ce qui nous arrive? Ça vient d'où? Ça vient de nous-mêmes. Qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Et ça, c'est une désobéissance qui était inconsciente, en tout cas pas voulue. Donc tout ce qui nous arrive à nous-mêmes, et on fait dire à mieux que moi, quand en tout cas les gens, les meilleurs d'avant de la communauté, quand une chose arrive, il se disait, qu'est-ce que j'ai fait à Allah? Qu'est-ce que Allah veut me rappeler comme désobéissance? Tu veux monter sur une monture qui refuse, tu fais une chose, tu donnes un ordre qu'on ne respecte pas, même en tant que responsable de la situation. La question que tu as, pourquoi on me désobéit? Non, mais toi tu désobéis matin, midi et soir à Allah et à son messager. Et tu ne veux pas qu'on te désobéisse, mais qui tu es? Donc ceci, ce n'est qu'un exemple, une illustration pour commencer par la fin. Parce que, certainement, tout le bien, comme le dit l'imam Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, tout le bien est dans l'obéissance à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va repartir, inch'Allah, par au début. Le début, c'est quoi? C'est la révélation. Ce que, comme je le disais tantôt, hier en particulier, on a tendance à oui, Allah dit, il ne faut pas faire ça. Allah dit, il faut faire ça. Donc, ça devient mécanique et on ne voit pas ce qu'il y a derrière, souvent. Sauf, alhamdoulilah, les meilleurs d'entre nous. On ne voit pas souvent que Allah, subhanahu wa ta'ala, qui n'a besoin de rien, a envoyé pour faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière, il a envoyé la révélation. Ce n'est pas pour autre chose. Entre autres, sourate Ibrahim, les premiers versets, Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi'idhni rabbihim ila sirati al-aziz al-hamid. Alif Lam Ra, livre qu'on t'a révélé afin que tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière par la permission de leur Seigneur, pour le guider vers le chemin du Tout-Puissant et du Sage, subhanahu wa ta'ala. L'imam Taqiyyuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Samad ibn Abdul Qasim ibn Muhammad ibn Timiya al-Harrani, qu'Allah illumine sa tombe, il a dit, en particulier dans ce livre auquel je me réfère parfois, et je vous le recommande, la Sunna face aux hérésies. Il a dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, la révélation indispensable au serviteur, elle est absolument nécessaire. Ils en ont davantage besoin que de toute autre chose. La révélation est l'âme du monde. La révélation est l'âme du monde, sa lumière, sa vie. Quelle postérité! Pour le monde, si l'âme, la vie et la lumière lui viennent à manquer. La réponse est connue. La vie d'ici-bas est plongée dans les ténèbres et maudite, si ce n'est là où le soleil de la révélation se lève. Il en va de même pour le serviteur. Tant que le soleil de la révélation n'illumine pas son cœur et que celui-ci ne s'imprègne pas de sa vie et de son âme, le serviteur est dans une obscurité et compte déjà parmi les morts. Et donc, ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on a. Malheureusement, on ne voit pas. On ne sait ce qu'on a et on voit ce qu'on n'a pas. En réalité, on a l'essentiel. C'est-à-dire qu'il y a une vie dans le cœur qui permet et qui justifie, et alhamdoulilah, le maintien de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ce monde et ce qu'il contient. Lui qui n'a besoin de rien, c'est le plus grand bienfait, c'est la révélation. C'est pour cela que sans révélation, il n'y a pas de vie. Tu imagines un monde dans les ténèbres et donc tu imagines des gens qui sont morts. Même si tu les vois marcher, même si tu les vois boire, manger, rigoler, ils sont morts déjà. Cette révélation donc permet, alhamdoulilah, grâce à Allah, d'avoir une belle vie dans ce bas monde, c'est ce qu'on demande à Allah, et une belle vie dans l'au-delà. Et permet également de nous préserver, inshallah, donc du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et donc, si on a compris que Allah n'a besoin de rien, qu'il est si miséricordieux, qu'il a envoyé tout le bien et nous a mis en garde contre tout le mal au travers de la révélation, donc au travers des prophètes, alayhi salam, dont il n'a pas besoin, yallah, à ce moment-là, on apprécie, on cherche à savoir qu'est-ce que c'est que la révélation. Que dit Allah à propos de ça? Que dit Allah à propos de ça? Lui qui sait. C'est quand on connaît Allah, nécessairement, quand nous désobéissons, sciemment en tout cas, Allah, c'est parce qu'on ne connaît pas. Comment tu veux obéir à un ordre que tu ne comprends pas? Et à ce que, où tu ne vois pas le bien. Au contraire, les passions et Satan te font miroiter le mal. Et te font miroiter le mal en tant que bien. Transformant le mal, le déguisant et en te faisant croire que c'est le bien. Moi je sais. Moi je pense. Non, moi j'aime ça. Mais tu peux aimer. Prends un enfant. Qu'Allah bénisse yani, nos enfants. Prends un enfant, il va vouloir beaucoup de choses. Parce qu'il y voit un intérêt immédiat, parce que ça l'attire. En réalité, comme l'a dit le prophète, ce monde, ce bas monde, ce qu'il contient, s'il pesait chez Allah subhanahu wa ta'ala le poids de l'aile d'un moustique, il n'en aurait pas fait profiter un seul instant quelqu'un qui ne croit pas. Et pourtant, Allah a donné et continue de donner, il déverse sa miséricorde, matin, midi, soir, que dis-je, à tout instant, surtout, pas seulement les hommes que nous voyons, les djinns, tout ce qui existe en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala profite de sa miséricorde. Et ça ne représente qu'un centième de sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. Et donc, le fait de croire en Allah, c'est ce qui te fait attendre. Les compagnons du prophète attendaient la révélation. Ils attendaient la révélation. Il n'y a plus de révélation, alhamdoulilah, Allah l'a parfait, Allah l'a conservé pour nous, et donc nous avons encore moins d'excuses, entre guillemets,
ni que les compagnons du prophète sallam, qui attendaient la révélation. Ils attendaient que Allah subhanahu wa ta'ala leur montre et par face ses bienfaits sur lui, donc de savoir dans cette affaire-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Où est le bien? Le bien est-il celui qui est apparent ou c'est ce qu'Allah seul sait, subhanahu wa ta'ala, qui révèle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en connaissant ça, certainement, quand Allah appelle les croyants, tu sais et tu attends que le bien t'illumine et te permette de vivre. Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans un livre également que je vous conseille, qui s'appelle une des versions, une des traductions, c'est Le chemin, c'est écrit Le chemin vers Allah. Le chemin vers Allah, il parle d'un des versets qu'on va voir, inshallah. Il dit Allah ordonne de lui obéir et obéir au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a débuté le verset, dans ce verset que vous connaissez certainement, qui est donc un des versets de la sourate An-Nisa, mais on reviendra dessus. Allah ordonne de lui, il a débuté le verset en interpellant ceux qui ont la foi. Ce qui fait ressentir que ce qui est attendu d'eux dans la suite, Allah dit parfois Ya ayyuhannas. Ici, il dit Ya ayyuhalladina amanu. Il dit l'implication du verset est une implication de la foi par laquelle ils ont été interpellés. On dit par exemple Ô toi, qu'Allah a comblé des bienfaits et enrichi de ses faveurs, sois bienfaisant comme Allah l'est avec toi. Ô toi, le savant, enseigne aux gens, puisque tu es savant, ce qui leur sera bénéfique. Ô toi, le juge, juge avec équité. Dans le Coran, dit Ibn Qayyim, il arrive souvent que les prescriptions soient adressées de la sorte. Il dit en particulier ici, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme il a été prescrit à vos prédécesseurs afin que vous atteigniez la piété. Sourate Al-Baqarah, verset 183. Il dit, il prend un autre exemple, Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'u ila dhikrillahi wa dharul bay'. Ô vous qui avez cru, la conséquence c'est quoi? Puisque vous avez cru, quand on vous appelle à la prière du vendredi, du jour du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah et laissez tout négoce. Ou, le verset que l'on connaît, sur lequel on reviendra, inshallah, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulul amr minkum. Sourate An-Nisa, que vous connaissez, ô vous les croyants, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Donc, quand tu es croyant, quand Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous que j'ai comblé par mes bienfaits, voilà ce qui, si vraiment vous êtes croyant, voilà ce qui vous est demandé. Et donc, c'est une obligation, comme vous le savez, d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui n'a besoin de rien, et donc de obéir également à son messager. Et Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans ce livre, La Sunna face aux hérésies, il dit que Allah a ordonné, subhanahu wa ta'ala, d'obéir au messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans une quarantaine de passages du Coran. Il dit par exemple, قُلْ أَتِيُوا اللَّهَ وَالرَّسُولُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Dit, obéissez à Allah et au messager, et si vous tournez le dos, alors sachez que Allah n'aime pas les infidèles. Surat 3, verset 32. Après avoir dit subhanahu wa ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Dis-leur, ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est le verset 31 de la sourate 3, si vous prétendez aimer Allah, alors suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Allah dit subhanahu wa ta'ala wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ihdharu fa in tawallaytum fa'lamu annama ala rasulina balaghul mubin. Allah dit dans la sourate Ma'ida 5, verset 92, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et prenez garde. Et ensuite, si ensuite vous vous détournez, alors sachez qu'il incombe à notre messager, il ne lui incombe que de transmettre le message clairement. Dit obéissez à Allah, obéissez aux messagers. S'il se détourne, il n'est alors responsable que de ce dont il est chargé et vous assumerez ce dont vous êtes chargé. Si vous lui obéissez, alors vous serez bien guidé. Il n'incombe au messager que de transmettre explicitement jusqu'à ce qu'il dise subhanahu wa ta'ala dans la sourate Nour, versets 54, 56, 62, 63, accomplissez la prière, acquittez la zakat, obéissez à Allah au messager afin qu'il vous soit fait miséricorde. jusqu'à ce qu'ils disent, les vrais croyants sont seulement ceux qui croient à Allah et son messager, et qui, lorsqu'ils sont en compagnie, en sa compagnie, pour une affaire d'intérêt général, ne s'en vont pas avant de lui avoir demandé la permission. Et donc là, il parle des différents versets de cette sourate Nour, la sourate 24. L'autre exemple qu'il donne à partir de la sourate 4 en Nisa, versets 64 et 65, « Wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah. » ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Nous n'avons envoyé, dit Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate, dans ces versets 64 et 65 de la sourate Les Femmes, nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'ils soient obéis par la malédiction d'Allah. Si lorsqu'ils ont fait du tort à leur propre personne, à eux-mêmes, ils venaient à toi implorant le pardon d'Allah, et si le messager, alayhi salatu salam, demandait pardon pour eux, ils trouveraient certes Allah très accueillant au repentir miséricordieux. Non par ton Seigneur. La wa rabbik. Je jure par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leur dispute, puis qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce qui aura été décidé et qu'ils se soumettent complètement. Une parenthèse, à partir de ce verset-là, certains savants disent que le fait d'obéir à Allah, d'obéir au messager sallallahu alayhi wa sallam, ne suffit pas. Ça, c'est des degrés. Alhamdulillah, obéir, c'est une obligation. Mais jusqu'à ce que, comme Allah dit, Subhanahu wa ta'ala, fala wa rabbik. Aucun nom, je jure par ton Seigneur, ils ne seront pas véritablement croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront pas demandé de juger de leur dispute, puis n'auront éprouvé en eux-mêmes nulle angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent complètement. Et donc il prend également le verset de la sourate, le 31 de la sourate 3. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Il prend l'autre verset que vous connaissez également. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا واتقوا الله. Sourate Al-Hashr 59 verset 7. Un hadith authentique qui est rapporté par l'imam Al-Bukhari qui nous éclaire un peu sur l'explication de ce verset. Et effectivement, beaucoup de gens, par insouciance, Allah dit, ce que le messager vous apporte, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, alayhi salam, abstenez-vous-en et craignez Allah. 59, 7. C'est Ibn Mas'ud, l'histoire c'est Ibn Mas'ud, vous connaissez certainement l'histoire, c'est parce que souvent on entend, oui mais je ne trouve pas ça dans le Coran. Je ne trouve pas ça dans le Coran et une ignorante, comme nous sommes ignorants, a déjà posé la question ou interbraclassique. Al-Qama rapporte qu'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit, Allah a maudit les femmes qui se tatouent et celles qui se font tatouer. Les femmes qui rasent leurs sourcils et leur visage et celles qui se taillent les dents en faisant un espace artificiel entre elles pour paraître plus belles, changeant ainsi la création d'Allah. Abdullah ibn Mas'ud, il dit, Allah a maudit les femmes qui se tatouent et qui se font tatouer, qui rasent leurs sourcils et leur visage. Même si il y a des fatwas que l'on trouve sur Internet, c'est oui, mais si ton mari le permet, etc. Tu ne peux pas obéir à ton mari, tu n'as qu'à aller chercher une mannequin. Tu ne vas pas obéir, pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. Oui, mais même si le mari le dit, c'est lui qui t'a créé. Et donc, il dit, Allah a interdit. Et celle qui taille les dents en faisant un espace artificiel pour paraître belle, plus belle, changeant la création d'Allah. Cette parole d'Abdullah parvient à une femme de Banu Asad, appelée Yaqub. Elle vient trouver Abdullah et lui dit, je viens d'apprendre que tu as maudit telle et telle femme. Et il répondit, qu'Allah l'agré, pourquoi ne devrais-je pas maudire celles que le messager sallallahu alayhi wa sallam a maudites et qui sont maudites dans le livre d'Allah. Qui sont maudits dans le livre d'Allah, dit Abdallah. Oum Yaqub dit, j'ai lu tout le Coran, mais je n'ai pas trouvé ce que tu dis. Effectivement, tu peux relire. Abdullah ibn Mas'ud lui dit, sûrement que tu ne l'as pas lu. Si tu l'avais lu, tu l'aurais trouvé. N'as-tu pas lu « Wa ma atakum rasoulu fakhudhuhu wa ma nahakum fantahu » N'as-tu pas lu « Prenez ce que le messager vous donne et ce qui vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah car Allah est dur de punition » Sourate 9, verset 7, donc celui-là. Elle a répondu « Si, je l'ai lu. » Abdullah lui dit « Eh bien, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de telles choses. » Elle dit « Pourtant, je vois ta femme faire ces choses. » Ce n'est pas une excuse, ce n'est pas parce que ma femme fait des choses que tu vas dire que c'est permis. Abdullah, donc, il dit, vas-y, l'observer très bien. Elle alla l'observer, mais ne trouva rien pour supporter son affirmation. Ça, c'est voilà, ta femme, tu dis ça, et alors que ta femme fait ça, et même si ma femme le faisait, qu'Allah la guide. Ce n'est pas parce que l'imam fait quelque chose, ou tel cheikh fait ceci, que c'est permis. Bien sûr que non. Ce qui est permis pour notre bien, et ce qui est interdit pour notre bien. Et bien sûr, la femme ne le faisait pas. Et Abdallah dit alors, si ma femme était comme tu le pensais, je ne l'aurais pas gardée avec moi, je l'aurais divorcée. Hadith numéro 4886 de Sahih al-Bukhari. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Wa ma atakum rasoulu fakhudhuhu wa ma nahakum fantahu wa taqullah est un, il suffit comme verset pour dire que la sunna est liée au Coran. Comme on le verra et comme vous le savez déjà. Allah dit subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَى وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Surat Nisa, toujours la surat 4, les femmes, verset 69. Qu'est-ce qu'il dit subhanahu wa ta'ala? Quiconque obéit à Allah et au messager, ceux-là sont avec ceux que Allah a comblés de ses bienfaits, à savoir les prophètes, les véridictes, les martyrs ou les témoins et les vertueux, et quel bon compagnon que cela. Quand tu es là, 17 fois par jour au moins, quand tu es assis ou assise, quand tu es debout, quand tu es couché et que tu récites la Fatiha et que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider dans le droit chemin, lequel c'est, Allah te l'explicite, le chemin de ce que tu as comblé, tes bienfaits, qui sont-ils? Et Allah te dit dans la surat 4 verset 69, celui qui obéit à Allah et à son messager, voilà ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, a comblé de ses bienfaits. Ils sont les prophètes, ils sont avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel bon compagnon que cela. Donc en réalité, celui qui désobéit à Allah et à son messager, et tout en récitant la Fatiha, il est en train de se maudire lui-même. Tu demandes à Allah de faire partie de ses obéissants à Allah et à son messager. Pas une fois, pas deux fois. Pas le matin seulement, mais tu le fais tout au cours, tout le long de la journée et toute la nuit si tu peux, en demandant à Allah de te compter parmi les gens qu'il a agréés. Agréé c'est quoi? C'est que j'aime Allah, Allah même. Non. Allah t'a défini quels sont les gens qu'il a agréés. Avant toi, ce sont les prophètes, alayhi salatu wasalam. Ce sont les véridiques de tout temps. Et il y en a très peu parmi les dernières générations. Et ce sont les vertueux et donc les gens qui font le bien. Et Allah dit ailleurs, subhanahu wa ta'ala, « وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ النَّارَ خَالِدًا فِيهَا. Quiconque obéit à Allah et à son message et à son messager, il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Et voilà la grande réussite. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager et transgresse ses ordres, il le fera entrer au feu pour demeurer éternellement. Si seulement tu y crois. Sourate les femmes encore, verset 13-14. Je vous conseille de relire la sourate, masha'Allah, elle est très 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 riche, comme tout le Coran, mais particulièrement la sourate des femmes. Je me rappelle, ne lisons pas le Coran avec les yeux de mort. Je me rappelle, il y a certaines jeunes filles d'origine maghrébine qui m'ont demandé une traduction du Coran. Je leur ai amené ce qu'Allah a facilité. Elles vont directement, elles font table de matière et tombent sur la sourate 4, les femmes. Donc, elles ont lu les femmes, alhamdoulilah. Allah leur a permis de lire la traduction. Et viennent et me disent, mais ça s'appelle la sourate des femmes, mais on n'a pas vu les droits des femmes. C'est-à-dire que tu penses que le Coran a tout codifié, certainement, mais tu penses que c'est article 1, 2, 3, les femmes doivent taper tous les matins, voilà, etc. Non, pas du tout. Elle a été appelée femme pour la sagesse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à son prophète, qu'il a nommé un tel, ainsi, parce qu'Allah parle beaucoup yani, de la bienveillance vis-à-vis des femmes, etc., etc. Mais il n'y a pas que ça dedans. Il y a entre autres yani, tout ce qui nous permet de vivre. Allah l'a résumé. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Surat les djinns, c'est les djinns qui disent ça. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا. Les djinns disent ce qui a été révélé, qu'ils ont entendu le Coran. Ils ont dit quoi? Surat 60.